Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des podcasts consacrés au corps dans le processus de recherche. Le 12 et 13 octobre 2022 à Besançon a eu lieu la deuxième journée d'études intitulée « Le corps et l'épreuve de la thèse » organisée par le collectif des jeunes chercheurs du laboratoire C3S, culture, sport, santé, société. Pluridisciplinaire, cette journée réunissait plusieurs jeunes chercheurs s'inscrivant dans le domaine des sciences humaines et sociales. Les échanges et communications survenus lors de cette journée d'études ont révélé à quel point le corps était omniprésent dans le processus de recherche et agissait sur la production scientifique. Parmi les intervenants se trouvait Benjamin Tremblay, que nous avons aujourd'hui le plaisir de retrouver pour questionner le corps dans le processus de recherche. Avant de commencer, je tiens à te remercier, Benjamin, d'avoir accepté notre invitation. Peux-tu, pour que les auditeurs puissent te connaître davantage, commencer par te présenter?
Oui, merci Sacha, merci pour cette invitation à prolonger ces journées d'études qui étaient particulièrement denses, intéressantes et bien organisées, il faut le souligner. Donc je suis Benjamin Tremblay, j'occupe actuellement un poste de collaborateur scientifique ou chargé de recherche à la Haute École de Travail Santé, à la Haute École du Travail Social et de la Santé de Lausanne, l'HETSL, au sein de laquelle je travaille avec Alexandre Lamblay et Fabienne Malbois sur une enquête ethnographique qu'on va mener sur les EMS, qui sont les équivalents des EHPAD en France. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler, des terrains sur lesquels la question du corps se pose de manière particulièrement centrale. C'est une enquête intitulée « Enquêter sur le sens caché des conduites, une ethnographie de la connaissance ordinaire de la démence dans les institutions de soins de longue durée ». Voilà pour le poste que j'occupe actuellement. J'ai donc effectué une thèse de doctorat en sociologie à l'Université Lyon 2 sous la direction de Michel Perroni, une thèse que j'avais commencée en septembre 2012 et que j'ai soutenue en 2020. Qui s'intitulait « Pragmatique de la mémoire, une enquête villeurbanaise » et qui reposait sur un travail ethnographique de plusieurs années que j'avais réalisé dans la ville de Villeurbanne, dans l'immédiate périphérie de Lyon et plus particulièrement autour d'une institution publique, une institution municipale qui s'appelait le RIS.
Peux-tu nous présenter les raisons qui t'ont amené à vouloir participer à cette journée d'études sur le corps et l'épreuve de la thèse ?
Alors c'est une question difficile, je ne sais plus exactement au jour d'aujourd'hui pourquoi j'ai candidaté, mais il me semblait que l'appel à communication que vous aviez diffusé était très très ouvert, et surtout au fait très simplement qu'il plaçait la question du corps au cœur des échanges. Or le corps a tendance à passer au second plan, c'est du moins la perception, dans la sociologie, du moins dans une bonne part de la sociologie. Or quand on fait de l'ethnographie, ce qui est mon cas aujourd'hui comme dans ma thèse, lorsqu'on est sur le terrain pendant des années au contact des autres, on est obligé de s'interroger d'une certaine manière sur la question du corps et de pousser la réflexion au-delà d'un certain nombre d'évidences. C'est ce qui m'avait motivé, je crois, à venir vous rencontrer à Besançon pour avoir d'autres regards et pouvoir pousser certaines lignes d'analyse que j'avais un petit peu en tête.
D'accord, merci. Alors, au fil de tes recherches, comment en es-tu arrivé à te questionner sur le corps ?
Comme je le disais juste avant, c'est difficile de ne pas se questionner sur le corps quand on fait une enquête ethnographique. C'est-à-dire que l'ethnographie, par définition, c'est être parmi des autres, c'est être sur un terrain, c'est se déplacer, c'est observer, c'est manier des objets, c'est être pris dans des espaces et ainsi de suite. Donc, la méthode ethnographique, entre guillemets, oblige à s'interroger sur le corps. C'est donc en fait, j'y reviendrai certainement par la suite, c'est l'enquête de terrain qui m'a poussé à m'interroger sur le corps. C'était pas une interrogation que j'avais au préalable avant d'entamer mon enquête.
Comment ton terrain ethnographique, justement, t'a amené à adapter ou à ajuster ton corps sur le terrain?
Alors c'est justement exactement là-dessus que je voudrais... J'essaye de réfléchir et qu'on pourrait essayer de réfléchir aujourd'hui, c'est sur l'idée de s'ajuster, de se présenter. Alors pour recadrer un peu les choses, je dirais que le problème, à mon sens, c'est que souvent la question du corps du chercheur ou de la chercheuse, elle est assez mal posée. On a tendance à partir du principe selon lequel ce corps, c'est le nôtre, il nous appartient, et surtout que nous en sommes les maîtres et les possesseurs. Et partant de là, tout se passe comme si on pouvait en faire en fait un usage instrumental dans l'enquête de terrain. Genre, j'utilise mon corps pour. C'est un usage instrumental du corps. Et là-dessus, effectivement, il y a beaucoup de littérature avec des tas de gens qui viennent nous raconter comment ils ont fait leur enquête de terrain, comment ils ont fait usage, cet usage instrumental de leur corps pour accéder au terrain, accéder aux données, pour se présenter d'une certaine manière, se mettre en scène d'une certaine manière face à tel ou tel enquêté pour le faire parler, et ainsi de suite. Donc, dans cette vision-là des choses, le corps serait un instrument parmi d'autres pour parvenir à nos fins. Et on serait maître de notre corps comme on serait maître de notre recherche en général. Et donc très vite, moi j'ai été gêné en fait par cette conception, alors en première instance, je dirais égocentrée des choses qui reposent en fait sur des théories de l'action elles-mêmes assez problématiques. Donc pour développer un peu là-dessus, ce qui m'a intéressé et ce que j'avais essayé un peu de développer lors de ma communication lors des journées d'études d'octobre, c'était d'essayer de penser quelque chose d'autre, à savoir le fait que le corps du chercheur est d'abord un objet pour son terrain, ou si j'emploie des termes un peu plus précis, est un organisme. Ce corps est un organisme qui se trouve pris dans un environnement singulier, et c'est cet environnement qui sollicite et qui façonne le corps du chercheur d'une certaine manière. Donc la question qui se posait à moi, c'était de savoir comment mon corps, en tant que corps générique, finalement, pas le mien en tant que possession particulière, mais mon corps en tant que corps générique était passible de ce qui arrive sur le terrain. Alors ce terme est assez important, ce terme de passibilité, parce qu'il vient s'opposer à la conception dont je parlais juste avant, à la conception instrumentale, active, rationalisée du corps. Donc, mon idée, c'était de réfléchir un peu au fait que mon corps est juste un corps parmi d'autres, et ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment ce corps était sollicité par le terrain, modelé par le terrain et pris dans ce terrain qui lui faisait faire des choses. Donc c'est un peu ça le renversement. C'est pas moi qui utilise mon corps pour faire mon enquête, c'est le terrain qui modèle mon corps pour lui faire faire un certain nombre de choses. C'est la En gros, le renversement entre l'activité présumée du chercheur qui va de l'avant et ce que j'appelle la passibilité, c'est-à-dire un corps qui est soumis, pas sans connotation péjorative, mais qui est simplement là dans un environnement, et un environnement qui doit lui faire faire certaines choses. Et en l'occurrence, dans le cas de ma thèse, c'était pour lui faire rencontrer la mémoire. Voilà. Mon corps était sollicité par mon terrain pour que je puisse voir apparaître la mémoire. C'est comme ça que je répondrai à cette question. Je ne sais pas si c'est très clair.
D'accord, si, merci beaucoup. Alors, comment ton terrain, cet environnement social, finalement, a agi sur ton corps, a sollicité ton corps pour que tu puisses rencontrer la mémoire?
Alors, c'est une partie qui était assez importante. Il y a plusieurs choses dans cette question, en réalité. Il y a plusieurs interrogations sur le corps dans la question que tu poses, mais une part des choses que j'observais sur mon terrain, c'était des déplacements, tout simplement dans la ville. J'enquêtais sur ville urbaine et j'avais affaire à des gens qui me baladaient dans la ville. Alors c'est des choses qu'on peut toutes et tous faire, on fait des visites guidées, on fait des balades dans l'espace, etc. On fait ça pour les vacances, on aime bien découvrir des choses justement. Et moi, le truc, c'est que j'ai passé 3 ans et demi, 4 ans à faire ça, c'est-à-dire être pris parmi des gens qui m'emmenaient à la rencontre de la mémoire. C'est-à-dire que cette mémoire qui était pour eux présente dans un certain nombre d'espaces, dans tel bâtiment, dans tel arbre, elle pouvait être partout potentiellement, cette mémoire. Sauf qu'elle était cachée. Donc il fallait aller à sa rencontre. Il fallait aller à la rencontre de ce qu'on appelle génériquement les lieux de mémoire. Selon la fameuse expression de l'historien Pierre Nora. Et ces lieux de mémoire, il fallait savoir les voir, savoir les voir, savoir les écouter, savoir les entendre. Et donc, en fait, alors ça, je le répète, c'est qu'une partie seulement de mon enquête de terrain, mais il y a eu ce truc-là dans lequel j'ai été pris systématiquement pendant très longtemps, de manière extrêmement récurrente, où je me retrouvais à me faire promener par des gens qui pouvaient être des historiens professionnels, qui pouvaient être des amateurs de mémoire, qui pouvaient être des associations, qui pouvaient être des passionnés de leur ville, et qui m'emmenaient avec d'autres, avec un petit public comme ça, de gens rassemblés pour aller rencontrer la mémoire. Et donc concrètement, on se retrouve à naviguer dans l'espace et à redécouvrir ce que l'on voit dans ce dispositif particulier de balade guidée, de balade urbaine, etc. Et donc de fait, c'était des dispositifs qui sollicitaient les corps, parce que pour voir apparaître la mémoire, il fallait déjà voir, observer les choses qu'on nous montrait, comprendre que ce qu'on nous montrait, eh bien, était plus complexe que les apparences. C'est cette maison que vous avez face à vous, regardez bien, en fait, elle a ce détail-là, elle présente cette spécificité-là, elle a ce détail-là encore, et en fait, il se cache quelque chose sous les apparences. Seulement, pour avoir accès à ce qu'il y a en dessous des apparences, il faut solliciter les sens, et donc être attentif, observer, entendre, ressentir les choses. Donc vraiment, le corps est sollicité typiquement par ces dispositifs de découverte de la mémoire.
Cela, finalement, qu'on pourrait qualifier d'apprentissage sensoriel, en modelant ton corps, est-ce que ça produit quelque chose aussi au-delà de la recherche dans ta vie personnelle?
Il y a deux questions dans ces questions. La première, c'est très juste l'expression que tu emploies, c'est celle de l'apprentissage sensoriel, qui a été assez centrale dans ma thèse. Ça veut dire sensibiliser. C'est que c'est comme ça qu'on l'appellerait. Là-dessus, il y a un très beau livre qui a été publié. Alors, je l'ai dans ma bibliothèque, là, quelque part. Mais je sais plus dans quelle année il a été publié, sous la direction, en outre, de Michel Perroni, justement, qui s'appelait Sensibiliser. Et s'intéresser au sensibiliser, à l'activité de sensibiliser, c'est s'intéresser à ce que tu appelles justement l'apprentissage sensoriel. Donc, moi, un aspect des choses, c'était comment suis-je, en tant que chercheur, rendu sensible à un certain nombre de choses. C'est très intéressant parce que ça signifie que notre sensibilité, c'est pas quelque chose qui est là à l'intérieur de nous, dans une sorte de conception à mi-chemin entre le sens commun et la psychologie de sens commun. C'est-à-dire, je suis sensible à ça, du coup, je perçois ça. Non, la sensibilité, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et les dispositifs dont je parlais juste avant, c'était ça. C'était des choses des dispositifs dans lesquels les acteurs de terrain modifiaient effectivement ma sensibilité, me rendaient sensible à des choses que je n'aurais pas su voir de moi-même. Et ça, on peut tous et toutes en faire l'expérience. Quand vous vous baladez dans une ville quelconque, vous voyez ce que vous avez l'habitude de voir. Il faut des dispositifs de sensibilisation particuliers pour voir au-delà des apparences, pour être rendu sensible à telle couleur, à tel détail, à telle architecture, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très très central dans mon enquête. Qu'est-ce que ça m'a fait au-delà de la recherche? Je suis pas certain de pouvoir vraiment répondre à cette question. Sinon, le fait que ça m'a peut-être appris à lever les yeux quand je me balade dans la rue, à être plus sensible aux détails, à être plus sensible à l'environnement dans lequel j'évolue. Mais j'ai un peu de mal à répondre pour le coup à cette question directement.
Qu'est-ce que ces réflexions, ces questionnements t'ont appris sur le corps et notamment sur le corps sensible?
Déjà, je voudrais dire que, comme je le disais rapidement en introduction, mes réflexions sur le corps, elles n'ont pas été préalables au terrain. C'est un point qui me semble quand même intéressant pour situer les choses, y compris par rapport à d'autres intervenants qui seront là dans les podcasts et qui n'ont pas la même approche que moi. Comme je le disais tout à l'heure, je ne me suis pas posé la question du corps avant. C'était pas un objet d'enquête pour moi. C'était pas une question sur laquelle j'avais. C'est au fil du terrain que j'ai commencé, et même après le terrain, c'est-à-dire dans l'écriture, que j'ai commencé à réfléchir au corps. Donc quand on passe plus de 3 ans sur un terrain, 5-6 jours par semaine, on n'a pas le temps de tout comprendre, on est justement passible, c'est un terme que j'aime bien, on est passible de ce qui nous arrive, et donc c'est le terrain qui a changé ma réflexion, et non ma réflexion sur le corps qui a eu des implications directes sur mon travail de terrain. Cela dit, pour aller assez vite et quand même répondre à la question, je dirais que sur cette question du corps, sur le fait de réhabiliter le corps finalement, parce que c'était ça, hein, cette journée d'études, c'est réhabiliter le corps. Et alors, c'était ça qui était chouette aussi dans ces journées, c'est que c'était interdisciplinaire. Et du coup, moi, j'ai ce sentiment, effectivement, qu'en sociologie, le corps a tendance à être oublié en tant que tel, ce qui n'était pas le cas dans d'autres disciplines. Et donc, d'autres intervenants avaient des choses et intervenantes avaient des choses très chouettes à proposer. Donc je tracerai simplement deux lignes principales de réflexion à partir de tout ça. La première, c'est celle que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire les dispositifs de sensibilisation, les dispositifs qui sollicitent le corps. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, si tu veux, la question, c'est pas le corps du chercheur. Là, par exemple, on a l'exemple, pardon, des balades urbaines. Mon corps, c'était un corps dans un public. C'est ça que j'avais présenté lors des journées d'études. Ça veut dire qu'il y a un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes est déplacé, manié, orienté. Et c'est ce groupe de personnes qui est rendu sensible à des choses. Donc, ça permet de décaler la focale. Ça permet de sortir de l'optique très, très égocentrée, justement, du chercheur qui cherche à tout prix à avoir des réponses à ces questions. Donc, j'étais juste un corps parmi d'autres. Le premier décalage, c'est, pas désincarner la recherche, mais sortir d'une conception très, très active de la recherche selon laquelle... Voilà, je veux arriver à tel résultat, je veux prouver telle hypothèse et je monte ma recherche. Non. Pour moi, ma recherche, ça a été un travail collectif et c'est des gens qui m'ont appris des choses. Bien sûr, c'est moi qui écris ma thèse, mais bref. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais il y a ce premier décalage-là, sortir du sujet. Après, la seconde ligne de travail sur le corps, qui est différente de celle-là, elle concerne la, au niveau vraiment sociologique, la façon de décrire et d'analyser les activités pratiques, c'est-à-dire la manière d'analyser, de décrire ce que les gens font. En l'occurrence, comme je le disais trop rapidement dans l'introduction, moi j'ai passé des années en étant membre d'une institution publique qui travaillait sur la mémoire, le RIS de Villeurbanne, et donc tous les jours je voyais des gens faire des choses avec leur corps. Or, quand on lit des textes scientifiques, on a souvent l'impression... que le monde est désincarné, justement, c'est des esprits qui communiquent, et tout est focalisé sur le langage. Au mieux, on va décrire un petit décor, et puis après avoir des échanges autour du langage. Ça, c'est la première chose, le corps est au second plan, et en plus, on a souvent l'impression, ça c'est très important par rapport à la réflexion sur le corps, on a souvent l'impression que les idées précèdent l'action. Comme si les gens raisonnent, font des plans dans leur tête, et après ils agissent, selon les plans qu'ils ont déjà dans leur tête. Donc c'est-à-dire qu'ils ont d'abord des choses dans leur esprit et après le corps, entre guillemets, réalise leurs plans avec plus ou moins de succès. Or, les choses en fait ne fonctionnent pas comme ça. Donc ce que j'ai essayé de faire dans mon travail de thèse et ce que j'essaye de faire aussi aujourd'hui avec mes collègues en Suisse sur la nouvelle enquête que je présentais tout à l'heure, c'est de décrire en quelque sorte la pensée en acte. D'écrire la pensée en acte, c'est forcément devoir prendre en charge le corps. Donc l'idée, c'est de dire, la pensée n'est pas, entre guillemets, dans le cerveau, pas plus que les idées, mais ce qu'on appelle la pensée, où les idées sont immanentes à l'activité pratique, elles sont incluses dans l'activité pratique, elles se travaillent, elles se modulent, elles se spécifient à travers l'action du corps sur son environnement, justement. C'est pour ça qu'au tout départ, je parlais d'organisme et d'environnement. Cette conception-là qu'on va retrouver dans le pragmatisme américain. Donc, cette idée, c'était qu'on ne peut pas, du coup, séparer la pensée du corps, parce que la pensée n'est pas ailleurs que dans le corps. Et en fait, dans un cours d'action, parce que je disais que j'observais des gens, dans un cours d'action, la pensée, évolue et elle est tributaire des opérations corporelles qu'on effectue, même les plus anodines. La plupart du temps, quand on agit, on ne sait pas ce qu'on va faire. On n'a pas un plan préalable en réalité. On ne sait pas vraiment non plus ce qu'on fait. On ne sait pas non plus ce qu'on veut vraiment faire. Mais le corps, justement, nous permet d'expérimenter. Le corps nous permet d'éprouver l'environnement, de sentir, de goûter, de tester. Il est ce corps aux prises avec... c'est une région manipulatoire, une zone manipulatoire. Et donc, c'est dans le cours d'action, avec cette expérience du corps, ces retours aussi que l'environnement donne au corps, etc., que les idées prennent forme, se spécifient, se réorientent, changent, etc. Donc, ça, c'est la... Voilà, pour répondre à la question, où m'a conduit cette réflexion sur le corps, c'était un peu ça. Donc, les éléments que j'écris là, en fait, ils viennent du... Bon, essentiellement d'un certain pragmatisme américain. C'est des choses qu'on va retrouver chez John Dewey, chez Mead, notamment. Donc du coup, moi qui voyais des gens s'activer tous les jours autour de moi, etc., j'essayais de décrire ça, d'essayer de décrire ce qu'ils faisaient réellement, des activités pratiques incarnée en essayant de voir comment le corps intervenait en permanence dans la production de telle ou telle activité. Alors, je parle d'activité pratique incarnée, on pourrait parler de raisonnement pratique, mais dans tous les cas, c'est cette idée de défaire l'opposition un peu standard entre la pensée et les actes, et de voir à quel point le corps est central dans la conception, l'évolution, l'expérimentation de la pensée. Allez, je vais bientôt terminer sur cette réponse peut-être un peu trop longue. J'ajouterai simplement un dernier élément, c'est que le corps, bien, c'est quelque chose qui se voit. C'est très bête comme remarque, mais quand on fait de l'ethnographie, on peut décrire le corps. Je peux décrire ce que quelqu'un fait. C'est ça que j'ai fait dans ma thèse, comme d'autres chercheurs qui sont un peu dans la filiation. Je peux décrire ce que font les gens. Par contre, je peux pas savoir ce qu'ils ont dans la tête. Je peux supposer ce qu'ils ont dans la tête quand ils font telle chose. Mais ça relève de l'hypothèse, c'est une construction hypothétique. J'impute des motifs mentaux aux gens qui font des choses, tandis que le corps, on peut l'observer. Seuls les actes sont observables, ça c'est vraiment le truc du pragmatisme. Donc voilà, c'est un peu ça que m'a apporté, enfin, disons que c'est dans cette direction que j'ai tiré la réflexion sur le corps, c'est-à-dire que le corps s'observe, le corps se manifeste, et le corps, c'est pas juste l'application visible d'une pensée préalable, le corps en fait participe en permanence à la conception de la pensée en acte.
Le corps visible s'observe. Est-ce que les sens s'observent? Est-ce que les sens se décrivent? Est-ce que tu as mobilisé une méthode justement pour réussir à décrire des sens vécus qui sont finalement éminemment intimes en fait chez l'autre?
Ouais, c'est des grosses questions, hein. Je suis pas sûr que ça tienne dans le temps du podcast, mais on arrive déjà presque au bout. Alors là-dessus, je dois dire que pour ce qui est du travail de thèse, j'ai pas eu le temps d'aller suffisamment loin, parce que là, tout ce qu'on aborde aujourd'hui, c'était qu'une part, évidemment, du problème. Il y avait plein d'autres questions qui se posaient à moi. Après, cette question des sens, je peux renvoyer au futur, parce que elle se pose, par contre, beaucoup. Dans l'enquête que je mène justement avec Fabienne Malbois et Alexandre Lamblet aujourd'hui, et puisque je vais essayer d'aller très vite, on effectue des ethnographies dans des EMS suisses, avec des personnes âgées atteintes de démence. Et on s'intéresse au travail des professionnels qui doivent composer avec ça et qui doivent essayer de faire en sorte de prendre soin et d'entretenir des personnes du mieux qu'ils peuvent dans ces contextes-là. Or, on a affaire, les professionnels ont affaire à des gens, des personnes âgées, qui ont des troubles particuliers à différents niveaux, et qui, assez régulièrement, ont perdu un usage de la parole qui n'est pas l'usage de la parole qu'on a habituellement. La question des sens, elle se pose de manière prioritaire. C'est-à-dire quand on ne peut pas vraiment communiquer par la parole, quand la parole est décousue, il faut arriver à travailler autrement avec les gens. Il faut arriver à faire lien d'une autre manière. Et cette manière de faire lien peut aussi reposer sur les sens. Je te réponds comme ça, comme une piste de travail sur laquelle on est en train de travailler justement, c'est comment décrire les sens. Comment décrire le travail des sens, et en particulier là, comment décrire la place qu'a le corps et qu'ont les sens dans des établissements qui ont des politiques centrées sur la personne, qui visent à considérer les personnes âgées atteintes de démence comme des personnes à part entière. Et donc pour cela, il faut s'adapter, il faut mener l'enquête sur eux, il faut arriver à savoir ce qu'elles ressentent, savoir ce qu'elles veulent dire, sachant qu'elles n'ont plus forcément le langage, etc., à savoir comment elles manifestent leurs intentions, etc. Donc voilà, c'est un petit peu un décalage. On s'intéresse au sens en tant que sociologue, mais on s'intéresse surtout à des professionnels de santé qui, eux, sont très concernés par la question des sens et qui sont des experts en la matière, parce que les gens qui travaillent dans ces établissements ont l'habitude de ça, ont l'habitude de sentir, justement, sentir ce que ressent la personne, comment partager avec elle, qu'est-ce que traduit tel regard, qu'est-ce que traduit tel geste, et ainsi de suite. C'est un petit peu comme ça que je répondrais. C'est un projet en cours, c'est la question que tu poses finalement.
D'accord. Je te remercie au nom du comité d'organisation, Benjamin, pour ta participation d'abord à la journée d'études, puis à cette saison des podcasts. Pour nous avoir éclairé de ton expérience, de tes questionnements, de tes analyses relatifs au corps dans le processus de recherche. J'invite pour finir les auditeurs à aller découvrir les autres podcasts présentés sur le site du laboratoire C3S. Merci à vous.